VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui. Abdourahmane Diab pour vous présenter cette édition de 19h30 GMT. Nous sommes lundi 27 mars 2017 au sommaire. Le ministre de la Défense du Bénin crée la surprise en démissionnant alors que l'Assemblée nationale s'apprête à se prononcer sur une réforme constitutionnelle controversée. Au Mali, la conférence nationale de réconciliation s'ouvre sans l'opposition et une partie des groupes armés. Grève illimitée des enseignants au Cameroun, certains d'entre eux réclament 60 mois d'arriérés de salaire. Et puis en RDC, toujours pas d'accord sur la désignation du Premier ministre alors que les évêques annoncent la fin des travaux pour ce soir.
Est-ce qu'ils sont intéressés à aller aux élections, que ce soit ceux de la majorité ou ceux de l'opposition?
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Bienvenue à tous. Au Bénin, le ministre de la Défense a démissionné, créant la surprise dans un contexte politique tendu en raison de la volonté du président de réformer la Constitution. Candidat Armand Marie Azanaï était pourtant un important allié du président Patrice Talon. Il explique sa démission par ce qu'il appelle les derniers développements de l'actualité politique au Bénin. Le président Talon a convoqué l'Assemblée nationale en session extraordinaire pour voter un projet de réforme constitutionnelle qui prévoit notamment un mandat présidentiel unique. Dans la partie magazine de cette édition, notre correspondante au Bénin revient sur la marche des magistrats qui dénoncent aussi ce projet de révision constitutionnelle. En Côte d'Ivoire, l'ancienne première dame Simone Gbagbo n'est pas venue au tribunal pour la reprise de son procès pour crime contre l'humanité. Ce procès a été suspendu à plusieurs reprises. Le point avec Morgane Guériec.
Simone Gbagbo et ses avocats n'étaient pas présents ce lundi devant la cour d'assises d'Abidjan. Les avocats de l'ancienne première dame ivoirienne ont claqué la porte lors de l'audience du 15 mars dernier et annoncé la suspension de leur participation. Ils demandent la reprise totale des débats en raison, disent-ils, de l'absence de nombreuses pièces manquantes au dossier d'accusation et le remplacement d'un magistrat. Ce matin, les avocats de la partie civile ont fait leur plaidoirie. Le procès se poursuivra demain. Ensuite, le procureur annoncera son réquisitoire avant que le jury ne rende son verdict. L'ancienne première dame est poursuivie pour son implication présumée dans des tirs d'obus sur le marché d'Abobo et sa participation à une cellule qui organisait des attaques pendant la crise post-électorale de 2010 et 2011. Simone Gbagbo purge déjà une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État et elle risque la prison à perpétuité.
À Bamako, la conférence d'entente nationale s'est ouverte aujourd'hui au Palais de la Culture. Cette rencontre censée favoriser la réconciliation nationale est boycottée par les groupes armés et l'opposition. Claire Morin-Jubourg.
Sur le papier, cette grande conférence de 7 jours doit permettre l'élaboration d'une charte pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale sur une base consensuelle. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président Ibrahim Boubacar Keïta a insisté sur un Mali uni et ouvert. Les partis de la majorité et les groupes armés pro-gouvernementaux étaient bien présents. Par contre, l'opposition et l'ancienne rébellion à dominante Touareg, la CMA, ne sont pas venus malgré les tractations ce week-end. Dans un communiqué, ils ont justifié leur boycott en affirmant que la rencontre n'est pas porteuse d'un dialogue refondateur inclusif qu'ils réclament depuis plus de 3 ans. La deuxième centrale syndicale du pays, la CSTM, a également décidé de ne pas participer. Pour les membres de la société civile venus de différentes régions du pays, ces discussions suscitent néanmoins un grand espoir.
Des combattants présumés de Boko Haram ont attaqué un village du nord-est du Nigeria et tué 3 hommes accusés d'avoir collaboré avec l'armée nigériane. Les combattants se sont identifiés comme faisant partie de la faction dissidente de Boko Haram dirigée par Abu Musab al-Barnawi. Les forces de sécurité ont également rapporté des pillages dans le village voisin de Dekété. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme tire la sonnette d'alarme sur la situation politique en RDC. La FIDH dit craindre une généralisation des violences dans ce pays miné par la crise politique. Le Conseil de sécurité doit voter dans 2 jours sur le renouvellement de la MONUSCO, présente dans le pays depuis 1999 et forte de 19 000 soldats, policiers et observateurs militaires. Nous reviendrons d'ailleurs sur la situation politique en République démocratique du Congo dans la partie magazine de cette édition. Au Cameroun, des enseignants ont entamé ce lundi une grève illimitée. Des milliers d'entre eux affirment n'avoir pas reçu leur salaire depuis plusieurs mois. Les détails avec Jacques Aristide.
C'est le collectif des enseignants indignés qui a lancé le mot d'ordre de grève après un ultimatum au gouvernement. Armés de banderoles et de drapeaux, de nombreux enseignants se sont rassemblés ce matin pour un sit-in devant le ministère des Finances à Yaoundé. Les forces de l'ordre ont été déployées. D'après le collectif, plus de 20 000 enseignants se plaignent de leurs conditions depuis la fin de leur formation dans les écoles normales du Cameroun et dénoncent notamment le non-paiement des salaires et des rappels. Certains évoquent jusqu'à 60 mois d'arriérés. Dans une lettre datée du 27 février, envoyée au ministère des enseignements secondaires, ce mouvement avait menacé de se mettre en arrêt de travail s'il n'obtenait pas satisfaction. Le ministre Jean-Ernest Ngalé Bibéhé avait alors indiqué avoir saisi son collègue des finances pour faire activer le dossier, mais selon le collectif, aucune solution n'a été trouvée jusqu'à la date butoir ce lundi. Le collectif a toutefois décliné l'invitation à une réunion ce même lundi au ministère de l'enseignement. Les enseignants affirment qu'ils ne peuvent plus faire preuve de patience.
Le président sud-africain Jacob Zuma a brusquement interrompu une tournée de promotion aux États-Unis et au Royaume-Uni de son ministre des Finances Pravin Gordhan, ravivant les rumeurs d'un remaniement ministériel imminent. Depuis plusieurs mois, les relations sont tendues entre le président Zuma et son ministre des Finances. Au Zimbabwe, le gouvernement annonce que les fortes pluies qui se sont récemment abattues sur le pays ont causé une brusque recrudescence du paludisme qui a fait au moins 150 morts ces 2 derniers mois. Plus de 90 000 cas de malaria ont été recensés selon le ministère zimbabwéen de la Santé. Harare a lancé un appel à l'aide internationale pour contenir la maladie. Les gardes-côtes libyens ont intercepté et ramené 60 migrants clandestins originaires du Bangladesh qui tentaient de rejoindre l'Europe par la mer. Selon un responsable libyen, les migrants ont été ramenés sur la côte à 45 km à l'ouest de Tripoli où ils ont été pris en charge par une équipe médicale avant d'être remis aux autorités de la lutte contre l'immigration clandestine.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le ministre de la Justice Jeff Sessions a menacé les villes sanctuaires qui protègent les immigrants en situation irrégulière. Il a indiqué que ces villes pourraient perdre des milliards de dollars de fonds du gouvernement si elles persistaient dans leur refus de collaborer avec les services d'immigration. Un tribunal en Russie a condamné l'opposant Alexeï Navalny à une peine de 15 jours d'emprisonnement au lendemain de manifestations contre la corruption où au moins 1000 personnes, y compris Navalny, ont été arrêtées. Les explications de Gaby Dorsil.
Navalny a été emmené au tribunal lundi matin, quelques heures avant que le Kremlin ne condamne les manifestations comme une incitation à la violence, accusant les organisateurs d'avoir payé des jeunes pour y participer. Selon le ministère de l'Intérieur, un policier a été hospitalisé après avoir été blessé à la tête par un manifestant et une enquête est ouverte. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue dimanche à travers la Fédération russe pour exiger la fin de la corruption. La justice accuse le leader de l'opposition d'avoir résisté aux injonctions de la police. On lui avait auparavant imposé une amende d'environ 350 dollars pour la tenue d'une manifestation non autorisée. Le département d'État américain a dénoncé un affront aux valeurs démocratiques fondamentales. Washington et l'Union européenne ont appelé à la libération des détenus.
Le chef de la Ligue arabe a exhorté les membres de l'organisation à déployer plus d'efforts pour résoudre le conflit en Syrie, plutôt que de laisser d'autres puissances prendre en main le destin du pays. Selon Ahmed Aboul Gheit, il n'est pas juste que les gouvernements arabes restent à l'écart de la plus grande crise que la région ait connue dans son histoire moderne. Le gouvernement islamiste palestinien, le mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé la réouverture partielle de l'unique point de passage passage entre la bande de Gaza et Israël, qu'il avait totalement fermé après la mort d'un de ses commandants. Le Hamas a accusé Israël de l'assassinat vendredi de Mazen Faqa, tué par balle devant son domicile à Gaza, mais Israël n'a toujours pas réagi. L'ancien premier ministre israélien Ehud Olmert va rester en prison. Le président Reuven Rivlin a refusé sa demande de grâce. En prison pour 27 mois pour des affaires de corruption, Ehud Olmert, âgé de 71 ans, est le premier ex-chef de gouvernement israélien à purger une peine de prison. Il sera présenté devant un comité qui pourrait décider de réduire sa peine d'un tiers. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle tout de suite dans la Minute Éco, présentée ce soir par Jacques Aristide.
Production record de céréales et de coton au Mali. Le pays a franchi le cap de 8 800 000 tonnes de céréales pour se classer deuxième de la zone ouest africaine après le Nigeria. Quant à la filière coton, le Mali a produit l'année dernière 645 000 tonnes et vise 725 000 tonnes pour la campagne 2017-2018. Pour le ministre de l'Agriculture, Kassoum Deno, ce sont des chiffres inédits dans l'histoire agricole du pays. Shell se retire du Gabon. Le géant pétrolier anglo-néerlandais a revendu sa filiale gabonaise au groupe américain du capital investissement Carlyle pour 587 millions de dollars. La transaction comprend notamment 5 champs pétroliers et la participation dans 4 autres. Les 430 employés de Shell, groupe présent au Gabon depuis 1960, devraient passer sous l'égide de l'acheteur. La Banque africaine de développement et l'Union européenne se sont engagés à soutenir les projets d'infrastructures reliant le Tchad au Cameroun après une récente visite conjointe dans les deux pays. Les projets concernent principalement un chemin de fer entre Ngaoundéré et N'Djamena, estimé à 15 000 milliards de francs CFA, et d'un pont frontalier entre Yagoua, côté camerounais, et Bangor, côté tchadien, au coût de 72 milliards de francs CFA.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Suite des matchs amicaux sur le continent.
La Mauritanie affronte le Congo en amical à Nouakchott ce soir. Quant aux footballeurs centrafricains, ils croiseront le fer ce lundi en match amical à Rabat au Maroc face à leurs homologues de la Gambie. À Paris, le Sénégal jouera contre la Côte d'Ivoire. Et puis le match Nigeria-Burkina Faso qui était prévu à Londres a été annulé faute de visa pour plusieurs joueurs. Selon la fédération nigériane, 7 joueurs burkinabés n'ont pas obtenu le visa pour entrer sur le territoire britannique, entraînant de fait l'annulation de ce match qui était prévu dans le nord de Londres.
Éliminatoire pour le Mondial 2018, l'Iran se rapproche.
Ah oui, dans le groupe A, les Iraniens ont 4 longueurs d'avance sur la Corée du Sud. Une victoire contre la Chine, même si elle ne leur offrirait pas officiellement un billet pour la Coupe du Monde, les enverrait pratiquement en Russie. Dans l'autre poule, c'est l'Arabie Saoudite qui est en tête au moment de recevoir l'Irak, mais elle est à égalité avec le Japon qui accueille la modeste équipe de Thaïlande, Lanterne Rouge. On rappelle que les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour le Mondial 2018. Les deux troisièmes disputeront un mini-barrage dont le vainqueur participera à un barrage continental.
En Europe, on joue aussi en amical demain.
Duel de gala entre la France et l'Espagne, c'est la principale attraction de ces matchs amicaux disputés demain, tandis que la sélection des Pays-Bas en pleine crise reçoit l'Italie à Amsterdam. Le sélectionneur Danny Blind vient d'être limogé après une défaite des Oranges contre la Bulgarie 2-0. Cela fragilise grandement les chances de qualification des Pays-Bas pour le Mondial 2018. De son côté, la Suède sera opposée aux champions d'Europe portugais. Les Suédois n'ont plus Zlatan Ibrahimovic qui a pris sa retraite internationale.
Il est très cher, Cristiano Ronaldo.
Oui, l'attaquant vedette du Real Madrid et le footballeur le mieux payé sur la saison dernière avec 87,5 millions d'euros de revenus devant son grand rival, l'Argentin Lionel Messi, 76,5 millions d'euros selon des chiffres de l'hebdomadaire France Football. Le Brésilien Neymar, coéquipier de Messi au Barça, est sur la troisième marche du podium avec 55,5 millions d'euros. On rappelle que les chiffres de France Football prennent en compte les salaires bruts, les primes et revenus publicitaires accumulés sur la saison 2016-2017. Chez les entraîneurs, c'est le coach de Manchester United, José Mourinho, qui est le mieux payé avec 28 millions d'euros de revenus.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Avec son impressionnante puissance offensive, Houston a donné une leçon à Oklahoma City, 137 à 125 hier, tandis que Boston, vainqueur de Miami, 112 à 108, est revenu à la hauteur de Cleveland, en tête de la conférence Est. À l'Ouest toujours, le leader Golden State s'impose 106 à 94 grâce à 31 points de Klay Thompson.
Merci Nico.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour en République démocratique du Congo. Le blocage persiste aux discussions sur les arrangements particuliers de l'accord du 31 décembre dernier. Malgré une nouvelle plénière la nuit dernière, la désignation du Premier ministre et la succession d'Étienne Tshisekedi à la tête du Conseil national de suivi de l'accord divise toujours majorité et opposition. Et pourtant, les évêques catholiques annoncent pour la fin des travaux pour ce soir. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous avons l'impression qu'il y a beaucoup de jeux d'intérêts partisans, égoïstes, qui priment sur l'intérêt supérieur du pays.
Tout le monde parle de postes ministériels.
Des fois, nous nous posons même des questions. Est-ce qu'ils sont intéressés à aller aux élections ? Que ce soit ceux de la majorité ou ceux de l'opposition.
C'est en ces termes que Mgr Ambongo, le vice-président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, s'est attaqué ce lundi à 1h du matin à la classe politique congolaise qui l'accuse, toutes tendances confondues, de bloquer le processus de signature des arrangements particuliers de l'accord du 31 décembre 2016. Les points de blocage liés à la désignation du Premier ministre et à la présidence du Conseil national de suivi de l'accord divisent toujours majorité présidentielle et rassemblement. Ce qui laisse dire à Délis Essanga, délégué du rassemblement aux travaux, que la signature ce lundi soir à des arrangements particuliers comme l'ont annoncé les évêques relève de l'ordre du miracle.
La signature relevait désormais de l'ordre du divin ou du miracle, les choses paraissent mal engagées. Oui. Favoriser les consultations entre le Rassemblement et le président de la République en vue de nommer le Premier ministre.
À la majorité présidentielle, on reste catégorique. Joseph Kabila n'étant pas une machine à nommer, il faut que le Rassemblement lui propose un panel de personnalités pour qu'il se choisisse lui-même son Premier ministre, a dit ce lundi Ramazani Shadari, vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et délégué MP aux discussions de la CENCO.
La majorité a dit qu'il faut présenter au chef de l'État les noms qui proviendraient du rassemblement. Mais des amis du rassemblement, ils vont présenter au chef de l'État un seul nom. C'est comme si on demandait au chef de l'État de prendre acte. Il devient donc une machine à signer.
L'autre sujet qui divise, c'est la succession d'Étienne Tshisekedi à la tête du Conseil national de suivi de l'accord. Pour la MP, Tshisekedi ayant été choisi à ce poste par rapport à sa carrure politique, ne doit lui succéder qu'une personnalité qui fait l'unanimité au sein de la classe politique congolaise. Au rassemblement, par contre, on s'en tient à la lettre de l'accord du 31 décembre dernier qui stipule que ce poste doit revenir au président du Conseil des sages du Rassemblement. Aucune réelle avancée donc à ce jour, alors que les évêques ont réaffirmé pour ce lundi 27 mars 2017, dans la soirée, la signature des arrangements particuliers. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, lance demain mardi un dialogue politique pour sortir le pays de l'impasse politique. Annoncé depuis sa réélection contestée, ce dialogue est boycotté par la coalition pour la Nouvelle République de Jean Ping. Blanche Sanou a recueilli la réaction de Marc Ona de la société civile et proche de l'opposition.
On refuse de participer au dialogue politique parce que c'est une occasion tout simplement de légitimer un pouvoir qui s'est imposé par la force. Parce que les appels au dialogue, nous les avons lancés depuis des années. Nous avons tout simplement souhaité que, avant les présidentielles, qu'il y ait un dialogue inclusif. Nous avons fait le tour du monde, nous avons fait le tour des institutions. On est même allé aux États-Unis, en France, pour que nos partenaires internationaux viennent convaincre les tenants du pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire Ali Bongo et ses faucons, pour qu'ils organisent un dialogue inclusif qui regroupe tous les acteurs politiques afin d'éviter ce qui s'est passé le 27 août. Mais Ali Bongo a dit non. Mais c'est après avoir opéré son coup de force électoral qu'il tend la main. Or, quand on essaye de regarder l'histoire politique du Gabon, son père a opéré de la même façon. C'est-à-dire, on va aux élections, les Gabonais votent contre le système, votent contre lui, ils passent en force, ils mettent le militaire dans la rue, on tue, et puis on dit, voilà, on va s'asseoir pour négocier.
Alors, comment voyez-vous l'issue à cette tension au niveau de la scène politique au Gabon?
Il faut que les Gabonais résistent, les Gabonais sont en train de résister. Le pays est complètement ingouvernable, je crois que c'est l'issue. Quand ils auront compris qu'ils ne peuvent plus gouverner, en ce moment-là, il y aura un vrai dialogue.
C'était Marc Honard de la société civile gabonaise. Écoutons à présent la réaction du professeur Fabien Enonkoué, conseiller du président Ali Bongo.
Il y a deux principaux objectifs. Il y a un objectif immédiat qui est de consolider l'apaisement et la décrispation donc, du climat politique. Et il y a un objectif plus structurel qui est celui à moyen et à long terme. C'est celui de parvenir à une révision fondamentale, à une réforme des institutions.
Est-ce que l'absence de l'opposition va-t-elle avoir un impact sur le dialogue?
Je ne pense pas. On eût aimé que tout le monde fût là, mais comme vous savez, les agendas politiques des uns et des autres ne sont pas forcément de nature à permettre cela. Mais le caractère inclusif du dialogue, il est assuré dès lors qu'il y a une participation massive de la société civile à la phase citoyenne. Aujourd'hui, on annonce 1200 organisations de la société civile et à la phase politique, il y a la majorité des partis politiques qui constituent le paysage politique gabonais. Aujourd'hui, il n'y a que quelques personnalités qui sont restées en marge de cela.
C'était le professeur Flavien Enonkoué, conseiller du président d'Ali Bongo Ondimba. Les magistrats au Bénin ont démarré ce lundi la série d'actions prévues pour dire non à la révision constitutionnelle initiée par le président Patrice Talon. Pour eux, pas question de laisser ce projet prendre corps alors que, selon eux donc, il restreint les libertés et assujettit la justice. Notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé, nous fait le point.
En se faisant porter à la tête du Bénin par 65% des Béninois, Patrice Talon était loin de s'imaginer que la révolution populaire dans les urnes en moins d'un an serait devenue une insurrection populaire dans les rues. À tous les niveaux, le grognement se fait de plus en plus fréquent. Et cette histoire des réformes institutionnelles, point clé du programme de société du candidat devenu président, n'est pas pour arranger les choses. Beaucoup ne comprennent pas qu'au moment où le chômage dicte sa loi, que le panier de la ménagère s'est davantage affaibli, au moment où les questions d'énergie et d'eau reste en suspens, le chef de l'État trouve opportun de demander une session extraordinaire des députés pour une étude en urgence du projet de révision de la loi fondamentale. Une procédure d'urgence d'ailleurs rejetée par les députés en confiant le dossier à la commission des lois qui dispose de 15 jours pour déposer son rapport. Même dans le rang des députés acquis à la cause de Patrice Talon, on a du mal à comprendre l'urgence autour de la révision de la Constitution.
Sur la question de la révision de la Constitution, il n'y a pas d'urgence. Il y a peut-être des urgences dans la République. Et c'est vrai, nous avons des urgences sur la question de l'emploi des jeunes, nous avons des urgences sur la question de la qualité de l'eau, nous avons des urgences sur d'autres problèmes. Nous avons des urgences parfois sur nos campus, nos universités. Mais on n'a pas d'urgence en ce qui concerne la révision de la Constitution. Nous disons que probablement que le président de la République a été piégé ou a été conduit à commettre la faute. C'est une faute devant la République et nous exigeons qu'il y ait clarification de ce qui s'est passé.
La veille de la session extraordinaire au Parlement, le chef de l'État s'était adressé aux populations. Son souci était surtout de faire comprendre aux Béninois sa volonté à prendre en compte les avis de tous dans le processus de révision de la loi fondamentale dans un total respect des textes en vigueur. Patrice Talon.
Aussi ambitieux qu'il soit, le projet de révision de la Constitution reste perfectible. Les modifications proposées renforcent-elles la démocratie? Préservent-elles nos libertés? Permettent-elles une meilleure reddition de comptes? Organisent-elles mieux la vie politique? Favorisent-elles le développement économique et social ainsi que l'épanouissement individuel et collectif? Chaque foi que la réponse à l'une de ces questions sera négative pour l'une quelconque des propositions de modification. Celle-ci pourra être rejetée.
Le nouveau document transmis au Parlement dépouille la justice de bien de ses prérogatives, selon les magistrats qui ont initié la marche de protestation qui partira de la Bibliothèque nationale pour échouer sur l'esplanade du Palais des gouverneurs ce lundi à Porto Novo. Pour l'UNAMAB, il est nécessaire de corriger ce document qui, en l'état, reste une véritable restriction des libertés, une façon habile d'instaurer un climat de corruption et d'impunité. Mario Mentonou est membre de l'UNAMAB.
L'impunité, déjà fortement décriée par nos compatriotes, s'est trouvée renforcée dans ce projet. Ce projet s'apparente à un dolme en ce qu'il est presque à l'opposé des conclusions de la Commission des réformes politiques et institutionnelles. Pire, le dit projet s'écarte largement des promesses électorales du président de la République de procéder à un rééquilibrage des pouvoirs en renforçant la justice.
De Cotonou, je n'ai plus à demander pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, la baisse ces 10 dernières années de plus de 60% du coût des panneaux solaires a poussé plus d'un million de ménages à en équiper leur maison. Les écoles commencent à leur emboîter le pas. De l'État de l'Indiana, un reportage d'Erika Céleste présenté ici par Michel Joseph.
Les habitants de la petite commune de Fremont, dans l'État de l'Indiana, ont toujours compté sur le soleil pour attirer les touristes. Ils espèrent utiliser cette source d'énergie propre pour électrifier leurs écoles, un projet qui coûtera 3 millions de dollars. L'énergie excédentaire pourrait même être vendue à la compagnie locale d'électricité. William Stitt dirige le conseil scolaire de Fremont.
La technologie a tellement progressé au cours des deux dernières années qu'elle est devenue plus efficace et, au plan énergétique, plus rentable d'utiliser l'énergie.
3 à 4 000 panneaux photovoltaïques seront installés sur 2,5 hectares. Cet équipement, qui sera loué auprès de la compagnie locale d'électricité pour 20 ans, a une durée de vie de 40 ans. Une bonne affaire, affirme Kim Quick, directeur des infrastructures scolaires de Fremont.
Le coût restera le même que ce que nous payons pour l'électricité. Il n'augmentera jamais sur les 20 prochaines années. Si nous voulons augmenter la consommation de 6%, par exemple, nous paierons le même prix aujourd'hui et dans 20 ans.
Après ce délai, l'équipement reviendra aux écoles de Fremont qui n'auront plus de facture d'électricité à payer. Les panneaux continuent de produire de l'électricité pendant les vacances, une énergie qui sera vendue à la compagnie d'électricité, se félicite Kim Quick.
Ça marche toute l'année. Même sous la pleine lune, les panneaux produiront de l'électricité.
3% seulement des 125 000 écoles des États-Unis utilisent le solaire sous une forme ou une autre. Selon un récent rapport de la Fondation Solaire, 72 000 d'entre elles pourraient réaliser des économies grâce à cette énergie. L'utilisation du solaire donne l'opportunité aux enseignants d'intégrer des leçons pratiques de sciences, de technologie, d'ingénierie et de maths dans leur programme. Les trois écoles de Fremont auront une exposition permanente où les élèves apprendront comment l'énergie est produite, utilisée et économisée. Une initiative d'avenir, selon le président du conseil scolaire, William Stitt.
J'aimerais que les enfants dans 40 ans se disent qu'ils avaient pris une excellente décision il y a 40 ans en lançant ce projet solaire.
Si tout se déroule comme prévu, les panneaux solaires des écoles de Fremont commenceront à produire de l'électricité cet été.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Voilà. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Georges Léonard Sagno. À la console, Patrick Dayer. Présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité. On continue 24 heures sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wenpanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.